Rina, bonjour, et on commence avec vous peut-être par ce bilan, bien sûr provisoire, mais en tout cas, c'est vrai que ça faisait plusieurs jours qu'il n'y avait pas eu de victimes en Israël, et là, ils sont quand même assez nombreux, les blessés.
Oui, bonjour Elsa. Effectivement, on avait quelques jours avec moins de missiles. Là, on retourne à ce qu'il y avait avant. On parle au moins d'une vingtaine de missiles ce matin. Et ça, c'est après qu'il y avait déjà un tir de 5 missiles plus tôt dans la nuit. Et le bilan est lourd parce qu'il y avait plusieurs impacts, en fait. Et d'abord dans la région de la Bourse, à Ramat Gan, avec des très grands immeubles. Donc, heureusement que c'était assez tôt le matin, donc il n'y avait pas trop du monde qui sont venus et travailler. Mais l'impact, la destruction est assez phénoménale, on le voit dans les images. Il y avait aussi des immeubles, au moins un immeuble qui était impacté à Holon. Et là, il y avait des gens qui dormaient, mais qui ont réussi à se mettre à l'abri à temps. Donc, il y a des blessés, mais pas des blessés très, très graves pour l'instant. Un immeuble à Tel Aviv aussi impacté, mais le plus grave, bien sûr, c'est l'hôpital Soroka à Beersheba. Là, heureusement, un miracle. Et cet immeuble-là, qui est un immeuble un peu plus ancien que l'autre immeuble dans le même complexe, était évacué hier. Justement, il y avait cette crainte d'un impact direct. Donc, il n'y avait plus de patients dans l'immeuble, mais les bâtiments même est énormément endommagés.
Est-ce que c'est avéré que l'hôpital a été visé délibérément par la République islamique d'Iran?
En tout cas, c'est ce que les autorités israéliennes réclament. Bien sûr, Téhéran, ce matin, a prétexté comme s'ils ont visé une base de renseignements juste à côté de l'hôpital. Et en Israël, personne ne croit cette version.
Le ministre de la Santé israélien qui a déclaré le tir de missile contre le centre médical Soroka est un acte de terrorisme et une violation de la ligne rouge. C'est vrai que ça correspond bien sûr à un crime de guerre au sens du droit international. Il y a une attente de se dire qu'il faudrait là une condamnation déjà de la communauté internationale. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cet appel à la désescalade qu'on entend depuis des jours mais qui ne fait pas sens aujourd'hui pour Israël au vu de cet événement tragique ce matin?
Oui, donc comme vous l'avez dit, il y a les ministres de santé qui appellent ça un acte de terreur, un franchissement d'une ligne rouge, un crime de guerre par le régime iranien fait exprès justement des visées de citoyens. Mais ça, en fait, on a vu dès le début que le régime d'Ayatollah, dès le début, dès vendredi, visait des centres urbains. Et donc, en soi, ce n'est pas nouveau, contrairement à Israël qui vise d'abord, bien sûr, les sites nucléaires, mais aussi d'autres sites sécuritaires et militaires. Là, il y a une intention absolument claire et certaine de viser des centres urbains. Et d'ailleurs, les 24 morts, c'était tous des gens qui vivaient à Tel Aviv, dans la banlieue de Tel Aviv, pas du tout dans des endroits isolés où on aurait pu peut-être penser qu'il y avait une erreur de ciblage. Là, il n'y avait pas d'erreur. Tous les missiles sont dirigés vers des centres urbains. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi, il y a la réaction du président Isaac Herzog ce matin qui parle de cet hôpital de Soroka. Il explique que cet hôpital, comme il est situé dans le Negev, il sert vraiment des Israéliens de toutes les convictions, des Juifs, des musulmans, et des Druzes, donc toutes les parties de la société israélienne. Et non seulement ça, c'est comme c'est situé dans le Negev, ça sert aussi les Palestiniens qui arrivent exprès de la Cisjordanie pour se faire traiter. Et aussi, avant bien sûr le 7 octobre, ça servait aussi beaucoup de personnes malades qui venaient de la bande de Gaza pour se faire traiter dans cet hôpital. Donc c'est vraiment un hôpital qui est d'une certaine façon un symbole de la coexistence, qu'on avait avant le 7 octobre.
Quelle réponse israélienne est envisagée? Est-ce que ça paraît, au vu des déclarations politiques, assez certain qu'il y a quelque chose qui risque de s'accélérer?
Mais déjà, on a vu ce matin, il y avait déjà d'abord dans la nuit un appel de l'armée israélienne au aux Iraniens qui habitent autour de ces centrales nucléaires de plutonium de Arak d'évacuer. Et effectivement, l'armée israélienne a visé cette installation. C'était la première fois parce qu'avant, ils visaient d'autres sites nucléaires. Donc, il y avait des frappes d'abord sur Arak. Et aussi encore des tirs vers le site de Natanz. Ça va sûrement continuer. Je crois qu'en Israël, on ne cache pas cette intention. Le président Donald Trump a laissé encore une fois la porte ouverte aux Iraniens de venir à la table des négociations, mais pour l'instant, on ne les voit pas arriver à la Maison-Blanche.
On en est où justement de cette perspective de la part des États-Unis d'entrer véritablement en guerre aux côtés d'Israël? Vous le dites, il y a ce suspense entre guillemets du président sur des négociations à nouveau. Est-ce que quand même vous dites cette entrée en guerre, elle est assez imminente côté États-Unis?
Bon, on est encore dans le flou parce que d'un côté, on voit bien qu'il y a une accélération de ce type de déclaration du côté de président Trump qui dit que c'est pas exclu, que les Iraniens ils comprennent pas, qu'ils avaient leur chance de répondre, ils n'ont pas saisi cette chance. Et donc d'un côté, oui, on a le sentiment d'aller vers un États-Unis qui rejoint Israël et dans l'attaque. Au moins peut-être une attaque américaine sur le site de Fordo, mais de l'autre côté, le président américain a aussi précisé hier, après son conseil spécial sur le sujet, qu'il n'a pas encore pris la décision. Donc, si on croit le New York Times, l'armée américaine est maintenant prête. Il y avait l'ordre de se préparer côté opérationnel, mais l'ordre politique n'est pas encore sorti. Et là, on attend, on est comme tout le monde, on attend que le président Trump dise son mot final.
Quel est l'objectif de guerre, Ina, des Israéliens? On entend bien sûr mettre fin à cette course vers la bombe nucléaire des Iraniens, mais comment ça se concrétise? À quel moment Israël pourrait se dire « là, ça y est, on a atteint notre objectif, l'opération est terminée ».
Oui, on est dans une situation un peu contradictoire parce que d'un côté, et le président Trump, il a beaucoup d'opposants qui ne veulent pas que les États-Unis entrent en guerre. Mais de l'autre côté, si jamais les États-Unis entrent en guerre et visent justement cette installation nucléaire à Fordo, là, justement, Israël pourra peut-être dire « ça y est, on est arrivé à notre objectif », parce que ça, c'est l'installation nucléaire la plus avancée. On sait déjà qu'Israël a causé des dommages assez conséquents à l'autre installation de Natanz, qui est la plus large. Et donc, si on combine les deux, la plus large et la plus avancée technologiquement, peut-être Israël pourra dire, ça y est, on atteint notre objectif d'endommager le plus possible, peut-être pas détruire complètement, mais quand même et empêcher les Iraniens à continuer avec leur programme nucléaire, mais on n'est pas encore là. Donc la question est, effectivement, est-ce qu'Israël va, si les États-Unis n'entrent pas dans le jeu, est-ce qu'Israël va continuer à essayer quand même de détruire au moins partiellement les sites de Fordo, ou est-ce que M. Netanyahu va se contenter d'endommager tous les autres sites? Je pense que ce n'est pas encore déterminé.
Rina, pour finir, peut-être quelques mots sur la perception en France de cette situation au Proche-Orient et les discours. On entend hier soir Jean-Luc Mélenchon qui dit, par exemple, ni Netanyahou, ni Khamenei. De ce que vous entendez depuis bientôt une semaine, il y a une incompréhension en France de ce qui se passe au Proche-Orient, de ce qui est en train de se passer entre l'Iran et Israël.
Oui, surtout qu'on met sur le même niveau Israël et l'Iran. Et certes, Israël était la première à frapper, mais ce n'était pas venu comme ça par hasard. Et il y avait quand même ces rapports fameux de l'Agence de l'énergie atomique qui a bien précisé que l'Iran était dans les non-compliance, que l'Iran ne respectait pas ses obligations. Et en fait, que l'Iran, si on traduit ça en langage simple, l'Iran n'avait jamais l'intention d'avancer vers un programme nucléaire civil. Téhéran cherche cette capacité nucléaire militaire. Donc, on ne peut pas mettre au même pied Israël d'un côté, qui est sous une menace existentielle, par un pays qui, depuis 1969, n'a pas caché son intention en fait de le détruire. C'est quelque chose que tous les présidents iraniens assument. Et là, ils sont en train de passer à l'acte. Et de l'autre côté, l'Iran, certes, c'est terrible. On est tous avec le peuple iranien et personne ne veut voir la souffrance en Iran et personne ne veut voir les Iraniens touchés. Ça fait très mal à tout le monde, y compris en Israël. Mais on ne peut pas dire que l'Iran est sous une menace existentielle au même niveau qu'Israël.